Ce podcast est enregistré dans le studio de choc.ca à Montréal, sur le territoire non cédé par les Premières Nations qui l'habitent encore.
Puis après, je faisais une autre performance, genre d'une chanson que c'était un peu plus difficile, genre pour ma voix, on dirait, vu que c'était poussé des notes full intense, genre, mm-hmm. Puis c'était un challenge pour moi. Puis c'est ça, quand je l'ai fait, genre, un moment donné, je me suis juste perdue, genre, dans la chanson, je chantais. Mm-hmm. Puis un moment donné, genre, j'ai comme oublié mes paroles, je savais plus j'étais où, genre, j'entendais tout autour de moi, puis à un moment donné, tout faisait plus de sens, genre, j'étais comme, ah, je suis où dans la chanson, genre, j'étais perdue, puis j'ai juste arrêté de chanter, genre, puis là, on dirait que je faisais comme si tout était chill, mais genre, ça allait pas, là, tu sais, puis dans ma tête, c'était horrible, genre, tout le monde pensait que, genre, je m'étais chiée au complet, puis que, genre, ça allait pas pantoute. Dans un nouvel épisode des accoucheuses d'idées. Dans le fond, l'anxiété de performance, c'est un type d'anxiété qui va se manifester quand il y a des situations où une personne va être observée ou analysée par d'autres gens. Fait que c'est pas mal ça en général. Puis, tu sais, mettons la différence entre le stress puis l'anxiété, mais tu sais, c'est comme. Je sais pas si vous savez un peu, là, mais tu sais, c'est comme.
Je peux quand même le dire,
le stress, c'est comme plus quelque chose justement que tu vas vivre dans le moment présent qui va être une menace qui existe vraiment, genre, tu sais, quelque chose qui est concret puis que tu peux ressentir ça tout de suite. Mais là, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose que tu vas plus imaginer puis que tu vas anticiper beaucoup, genre, des choses qui pourraient arriver. Puis c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Vous comprenez un peu la différence quand même?
Mm-hmm. Ben, c'est-tu comme aussi, mettons... Genre, c'est normal d'être stressé s'il y a un ours à côté de toi, mais pas c'est tant ça. De stresser tous les jours de te faire manger par un ours.
Ouais.
Tu t'es jamais en contact avec.
Ouais, exact. C'est ça, tu t'imagines tout le temps qu'il va y avoir un ours qui va arriver n'importe quand, parce que t'es genre, c'est weird. Tu sais, c'est pas tant...
Mais c'est comme irrationnel.
Ouais, irrationnel.
Mais l'anxiété, c'est comme un peu le stress irrationnel.
Un moment de performance, j'ai pensé à ça. Longuement dans ma douche aujourd'hui. J'étais genre, c'est quoi un bon moment de performance? Genre, mais j'ai pensé à quand j'avais des rendez-vous avec ma psy. Comment je performe pour ma psy, notamment la première fois que je l'ai vue. Genre, j'étais comme, I'm fine. Comme j'ai tellement d'outils à ma disposition, je dois juste apprendre à les utiliser. Mais genre, tu sais, dans le fond, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété, tu sais. Puis, J'avais vu un TikTok d'une une femme humoriste qui racontait que elle, c'était tellement une people pleaser que quand elle allait chez sa psy, à chaque rendez-vous, elle faisait comme si elle allait un peu mieux. Genre, à chaque... Ah, je sais pas.
Si, ça devait être Fanny Rue, ouais.
Mais je pense que c'était un truc en anglais, ça se peut-tu?
Ah, sûrement.
Fanny Rue.
Fanny Real.
Fait que ça me... C'est venu me parler parce que... C'est vrai que comme, tu sais, même en thérapie, genre, tu sais, ben, vouloir mettre en valeur comme... donner une survisibilisation aux trucs qui vont bien puis occulter un peu les trucs qui vont moins bien dans ma vie pour qu'elle en me voie à travers ça. Puis, tu sais, c'est comme... À la fin de la journée, c'est un peu moi qui se piège parce que je pense qu'elle a brisé. Mais pas le briser, là. Je pense encore au fourth wall de Fleabag, là, mais genre, elle m'a fait comprendre, pas explicitement, que à la fin de la journée, ça, je veux dire, ça lui sert à rien à elle, tu sais, moi, que je fasse cette mise en contexte-là, dans le fond, justement, pour l'attendrir un peu envers ma situation, tu sais.
C'est ça.
C'est pas ça que j'ai de besoin.
Pas de son approbation, en fait.
Ben non. Ben sur certains trucs, oui, tu sais, de me valider puis de reconnaître, genre, que bon, mes émotions dans une situation sont valides. Est-ce que, là, on en fait une fatalité? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Genre, après ça, c'est une autre chose, tu sais. Mm-hmm. Bref, on divague un peu.
Absolument.
Ouais, mais c'est intéressant. Non, mais ça, parce que ça, tu sais, tu voulais être validée puis aimée pareil par elle. Fait que c'est un peu l'anxiété de performance que tu ressentais
Mais je pense que la la plus grande anxiété que je vis et que j'arrive à voir en mode, dans un symptôme corporel, par exemple, et mental, ça serait du coup dans l'art. Et c'est le fait donc d'être vu par des gens. Parce que y a beaucoup d'ego qui rentre là-dedans. Et c'est être sur scène et se rater, c'est comme le sentiment de ridicule le plus énorme au monde. Quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, j'en chie du ridicule, j'en ai rien à foutre maintenant, concrètement, si je le rationalise. Mais quand je me retrouve sur le fait, j'ai besoin qu'on pense de moi, que j'ai été pertinente, que j'ai été belle, que j'ai été drôle, que j'ai été poétique, etc. Et donc c'est difficile parce que c'est l'adrénaline qui te fait perdre la connexion avec le public. Mm-hmm. Puis au final, les gens ne sont pas là pour venir te voir. J'ai réalisé ça en discutant avec ma marraine conteuse Renée Brebouteille, à qui je veux faire un énorme big up. Big up, Renée. Et Renée me disait qu'en fait, les gens qui viennent voir des shows, et même nous, quand on va voir des shows, on vient pas pour voir quelqu'un en soi, on vient pour vivre et partager. Et donc, qu'importe ce qui nous est offert, on aura toujours quelque chose à apprendre juste du fait d'avoir vécu un moment de vie. Donc même si le moment de vie est ridicule, en fait, ça va pas nous... Vous voyez, en tant que spectateur, il n'y a rien qui va... Que ça soit extrêmement bon ou vraiment ridicule, dans tous les cas, la face de notre monde ne sera pas changée, quoi. Mmh. Et le plus important, c'est juste d'arriver à offrir.
Mais oui.
Et c'est vraiment se tourner de... l'ego et de l'anxiété et de tout ce qui est à l'intérieur en train de pourrir le moment qu'on est en train de vivre à genre, hop, on je regarde l'autre.
Ouais.
Et c'est juste se mettre dans cette espèce de dynamique-là de, OK, je dois faire le basculement de regarder l'autre au lieu de regarder à l'intérieur de moi quand je monte sur scène, avant de monter sur scène. Et pour ça, les tips, c'est après. Puis... je pense que l'anxiété de performance, c'est vraiment un... Comment je pourrais dire ? C'est vraiment quelque chose qui est porteur d'une féminitude pour moi. Parce qu'on sait, en tant que femme, intrinsèquement, que si on ne nous reconnaît pas, on n'aura peut-être aucune place dans la vie sociale qui nous sera offerte. Mmh. Et ça, c'est le truc le plus rude que j'ai pu observer chez déjà des petites filles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense que l'anxiété de performance se place dans une masculinité, mais peut-être pas aussi quotidienne que celle des femmes. Bon, je dis ça, j'ai aucune expérience masculine, donc écrivez en commentaire à nos chers auditeurs si vous avez à contredire ce propos. C'est avec grand plaisir.
Mais c'est ce que tu as observé.
C'est ça.
Ça fait quand même du sens, là. Je pense qu'il y a une anxiété de performance peut-être propre à une réalité masculine qu'on ne connaît pas non plus.
Absolument.
C'est comme être le pourvoyeur.
Ouais, c'est ça. De
rapporter le petit pain à la maison.
Celui qui... Ouais, c'est ça.
Faire de l'argent.
Ouais, c'est ça.
Faire l'argent, puis aussi, tu sais, pas pleurer, puis être toujours fort.
Puis plaire aux filles, puis ça. Tous ces genres de choses-là.
C'est différent, là, mais c'est peut-être plus insidieux chez les femmes aussi.
C'est ça. Pour moi, donc, il y a une histoire genre comme transgénérationnelle de notre vécu par rapport aux besoins de performance. Parce que, d'ailleurs, Charlie Danger, dans un podcast, dans un TEDx qu'on mettra en description, en parle très bien. Avant, étant donné que nous étions considérés comme des possessions, nous étions choisis pour nos qualités. Et si nous n'étions pas choisis, nous étions nous sommes à l'heure actuelle encore des vieilles filles au chat, des madames seules, quoi, en entre gros guillemets. Donc il faut qu'on soit choisis. Et pour être choisis, il faut avoir des aptitudes, des capacités, des compétences. Et on a le besoin d'être la première à détenir toutes ces compétences-là. Donc ça impose une rivalité entre femmes énorme qu'on vit depuis des siècles, en réalité. Depuis, je pense, en réalité... l'industrialisation, parce que j'ai l'impression que au Moyen-Âge, il y avait peut-être moins de codification par rapport à ce truc-là, parce qu'il y avait moins de connexion, le peuple était moins cultivé aussi. Mais à partir du moment où l'école, l'urbanisation a engagé plus de gens dans les mêmes endroits, il y a plus de compétitivité qui se sont installées, je pense.
Mm-hmm.
Puis c'est pour moi la principale raison pour laquelle on se retrouve à l'heure actuelle à encore avoir des grosses névroses féminines. Enfin, on est constamment en train de s'auto-juger par rapport à nos corps. Enfin, moi, je sais que je fais quelque chose qui est issu du male gaze, qui est de voir que les petites parties de mon corps qui font que mon corps est laid. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis genre, mes genoux, vraiment, sont tellement immondes. Non, mais tu vois, c'est ça.
Mais des genoux, c'est pas beau.
Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si je focusais sur les parties de mon corps. Je suis là, genre, mon côté droit. Si les gens, ils me voient de mon côté droit, putain, ils vont se dire que je suis la personne la plus laide de la Terre. Genre, parce que juste, dans le cinéma, on a découpé les femmes comme des puzzles. Et on a vu des belles parties de corps comme ça découpées. Donc, nous, on regarde nos corps aussi comme cela. Vous voyez, donc il y a cette performance là aussi constante et partout. Est-ce que je suis en train de me perdre complètement?
Non, c'est parfait.
Est-ce que je veux dire? Oui. Ok, putain, excusez-moi. Vas-y.
Mais il y a un truc qui.
Je veux que vous rebondissiez, j'ai besoin que vous rebondissiez. Ok,
mais c'est parce que je veux pas t'interrompre.
Non, mais si. Beau,
non, mais c'est vraiment intéressant, mais quand tu parlais justement de quel rôle la femme c'est d'être choisie. Ben, là, moi, ça me fâche, là, ça. Ben, tu sais, c'est vrai, totalement, que tu dis, là, mais tu sais, justement, ça me met dans une position passive de tout ce que tu as à faire, c'est plaire, puis espérer que quelqu'un va t'aimer, va te choisir.
C'est ça.
Mais c'est comme, mais même moi, j'ai eu, ben là, moi, clairement pas par rapport aux hommes, mais juste comme. c'est ça, me positionner en. Comme celle qu'on doit. Celle au bas qui attend que quelqu'un l'élève vers le haut, au lieu de. Tu sais, qui va m'aimer, qui va me choisir, justement, au lieu de. Ben, moi, est-ce que je l'aime? Moi, est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là? Ou est-ce que tu. En tout cas, c'est ça, là. Ben, ça vient sûrement de. Ben, de, comme tu disais, d'une histoire intergénérationnelle.
Ben, des choses qu'on nous a impliquées, c'est ça.
Dans notre vision de nous-mêmes qui reste à nous à subvertir, mais bon, c'est pas toujours autant facile. Là.
Mais complètement.
Est-ce que je me reconnais tellement dans qu'est-ce que tu dis, Hélo, quand tu parles du male gaze, mais tu sais, j'en avais parlé un peu dans l'épisode de
Léa, je crois, ou de Marianne.
Tu sais, du fait que j'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup quand moi j'étais adolescente, j'avais beaucoup d'amis et moi, je m'inclus là-dedans, qu'on avait toujours l'impression qu'il y avait une caméra qui nous regardait. Est-ce que c'est comme une forme, genre, post-moderne du male gaze? Tu sais, pourquoi c'est une caméra? Pourquoi c'est pas, genre, une personne dans la pièce? En tout cas. Mais tu sais, pendant vraiment, vraiment, vraiment des années, puis c'est comme si parce que, mais dans le fond, je voulais contrôler le regard qu'on posait sur moi, tu sais, comme en faisant cette performance-là.
Ben oui.
Ouais.
Ben c'est certain. Puis j'ai l'impression qu'aussi le désir de contrôle du regard, parce qu'au final, c'est ce qu'on est en train d'essayer de revendiquer dans notre liberté, c'est du coup avoir, nous, le choix de comment est-ce qu'on pose le regard sur nous, de comment est-ce qu'on paraît. Et donc, ça met beaucoup de pression parce qu'on désire paraître d'une telle manière. Et donc, quand on a l'impression d'un peu dissonner de cette manière-là, on se sent complètement s'écrouler de l'intérieur.
Mais notre ressenti n'est pas toujours raccord avec notre désir, justement.
Mais c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment tough à trouver dans notre libération, que je pense, nous sommes la première génération réelle à vivre de manière aussi pleine, puisque nous sommes des femmes d'Occident qui ont ce privilège-là. Et quand je vois la libération qu'a vécue ma mère, la nôtre est encore un step au-dessus, à mon sens. Puis il y a ce truc de aussi, on sait que si on est, par exemple, la femme jugée parce qu'on a un peu dissonné de ce qu'on attendait de nous, donc, ben, il peut nous arriver des choses graves. On sait que je pense aussi qu'on porte l'histoire transgénérationnelle des femmes qui se sont fait brûler sur les bûchers. Vous comprenez? Parce que le village entier a pensé que c'était une tueuse. Ben parce que l'histoire des sorcières est en nous, n'est-ce pas, Rosemary? Et il y a ce truc, pour moi, de l'ordre de... On sait qu'il y a des femmes qui sont tuées parce qu'elles n'ont plus voulu d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il y a des femmes qui ont été tuées, des femmes artistes qui ont été tuées parce qu'elles étaient trop reconnues, connues, etc. On sait qu'il y a, un danger à ne pas être parfaite, quoi. C'est en nous. Ça fait peur. Ça fait peur.
C'est foufou.
Ben, être parfaite. Ben, tu. Non, qui c'était pas ça? Genre, ça, ces bouts-là, tu peux les couper. Mais être parfaite selon un regard masculin. Là.
Mais c'est en fait, comme on a tous le regard masculin, parce que c'est pas que les hommes. Enfin, moi, j'ai un regard masculin.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, même entre les femmes, là, je divague un peu, là, mais tu sais, comme moi, j'ai majoritairement eu des relations hétéro, mais tu sais, j'ai fréquenté des femmes. Puis, tu sais, des fois, je me demande est-ce que le regard que moi, je posais sur elles était un peu le produit du male gaze, tu sais, qui est dans le fond, genre, que ma vision, elle est devenue empreinte. De... Mm-hmm. Ça se dit-tu? Ouais. Tu sais, ça a teinté ma vision que j'ai des femmes. Mais tu sais, c'est comme c'est difficile de me construire des scripts puis des narratifs à moi pour apprendre à voir les femmes comme des êtres complets, tu sais, pas à travers le prisme de... la vision masculine de qu'est-ce que ça devrait être une femme.
Mm-hmm. Ouais.
Oui, mais je pense que ça fait full de sens, là. C'est bien de le reconnaître, c'est ça. Mais je pense, en tout cas, selon moi, là, c'est subvertir l'hétéronormativité, c'est aussi, pas perpétuer ce regard-là de male gaze, dans le fond. Oh, OK, mais c'est ça. Mais je pense que, tu sais, déconstruire, mettons, l'hétéronormativité ou, tu sais, le fait d'être queer, ça touche pas seulement à, mettons, une relation de deux personnes du même sexe. C'est aussi mm-hmm. une vision de comment tu conçois les relations, les rapports humains et tout. Fait que de perpétuer cette disons que j'ai l'impression qu'il y a des personnes, des fois homosexuelles, qui reprennent et reproduisent les mêmes patterns que les les hommes, là, mais ou en tout cas que les relations hétérosexuelles. Je vais partir de mon expérience personnelle, là, mais tu sais, moi, en tant que personne queer, ça me fait beaucoup peur de reproduire des comportements soit masculins ou féminins qui sont très genrés ou très associés à l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. Dans le sens qu'il y a comme un... Là, ma pensée est lente. Parce que...
Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire.
Elle n'est pas encore développée.
Mais sinon, c'est pas grave, tu peux y réfléchir.
OK.
Mais tu sais, il n'y a pas de stress. Là.
C'est vrai, c'est ça.
Mais c'est juste dans le sens que j'ai pas envie, moi, de reproduire le même code. Mm-hmm. C'est ça. J'ai l'impression que des fois, comme on sort de l'hétéronormativité, mais on est dans une autre normativité, dans un couple homosexuel où il y a une personne super masculine, une personne super féminine mm-hmm. qui occupe un rôle qui est, dans le fond, le même que l'hétérosexualité, puis j'ai l'impression que
comme les gens qui réussissent, les gens qui réussissent pas aussi.
Mais exactement, puis c'est ça la vision qu'on a même des couples, de n'importe quel couple, c'est qu'il y a une personne dominante et dominée, qu'il y a c'est ça, là, une manière d'agir, une manière d'être, puis en tout cas, c'est pas grave en soi, là. Je critique pas les individus qui souhaitent s'inscrire dans ce schéma relationnel-là, mais de plus de reconnaître là, que c'est une structure qui vient de l'hétéronormativité puis que
il y a autre chose qui existe.
Ben il y a autre chose qui existe exactement là.
À ça.
Je peux-tu rajouter un bébé truc où vas-y. C'est trop long, qu'est-ce qu'on
vas-y, c'est juste je pense qu'on s'écarte un peu, j'ai l'impression.
On s'écarte vraiment.
Sujet mais tu sais sinon c'est pas grave là,
oui.
C'est...
Ouais.
Juste pas ouais. Mais si tu avais un truc
Non mais même qu'est-ce que je viens de dire genre
non, c'est quand même... Non, mais je verrai
ben
bien.
Oui, vous verrez. T'inquiète. Parce que j'aimerais entendre parler Marine.
Ouais,
mais est-ce que t'avais terminé, l'autre? Tu me l'as tué? T'es correct?
Est-ce que t'en as fait le tour ou pas?
Ben oui, on a fait le tour.
Ah, oh, man. Zut, OK, bon. Mais... Oh my God, je suis tellement... Bonjour, je suis la fatigue de ce podcast.
Non.
Wow. Bon, ben, je vais essayer de rassembler les quelques neurones que j'ai dans la tête pour essayer de développer une idée. Ça va être compliqué. Ok, moi je voulais peut-être parler de l'auto-sabotage. Mm-hmm. Ça vous dit quelque chose ou pas?
Mm-hmm.
Non, vraiment pas.
Dans tous les cas, pose pas la question là. Explique dans tous les cas parce que c'est peut-être les gens qui nous écoutent.
C'est ça, moi quand j'ai pensé à la performance, ça m'a ramené à des trucs d'école, ça m'a ramené à des trucs. schémas familiaux, etc. Notamment, moi, j'ai fait des compétitions, puis c'était vraiment dans la famille, puis c'était beaucoup de performances. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs moments de ma vie où j'ai eu, et j'ai dû faire de la performance, je me suis auto-sabotée parfois, parce que je trouvais ça plus simple que d'aller à l'inverse total, en mode, ben, vous voulez que j'aille au plus haut que ce que je peux, puis du coup, je vais aller à l'inverse, puis je vais foirer, mais genre bien, là. Très, très bien. Fait que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais j'ai pas non plus beaucoup à développer là-dessus, je vous dirais.
Est-ce que t'as l'impression que c'était plus facile de te dire que c'est comme t'avais un peu contrôlé le foirage de dire que t'avais essayé, puis même si t'avais essayé puis t'avais mis les efforts dedans, t'as même pas été capable de réussir, mettons.
Ouais, genre. c'est ça.
Ouais, je comprends.
Mais t'as l'impression que c'est l'anxiété qui t'a fait que t'as pas pu aller au bout, genre, de ça?
Ouais, complet, parce que... Ouais. C'est quoi la phrase déjà? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Mais c'est sur quel aspect, genre, que t'as pas pu le faire à cause de ça, genre?
Ben, sur quel aspect? Tu veux dire dans quel domaine, genre?
Mm-hmm.
Ben, dans tout. Ouais. Mm-hmm. Il y a des moments où juste comme freak out et je me suis dit, ben, tant qu'à me foirer, je vais comme vraiment même pas essayer. Mm-hmm. Puis généralement, tu te sens pas mieux après, fait que c'est vraiment une mauvaise idée. Mm-hmm. Ça, c'est les anti-tips, ne pas faire ça, l'auto-sabotage.
Mais c'est ça, je pense, c'est un des aspects les plus poches, justement, de l'anxiété de performance, quand ça fait que, justement, tu peux pas faire ton truc tellement que tu le ressens.
Ouais, c'est ça. C'est comme la pression, parfois, elle va au-delà de t'es trop paralysé, puis t'es comme genre, on va juste oublier que ça existe, puis faire autre chose.
C'est la peur de l'échec.
Bah ouais, complet, hein.
Mais t'as-tu l'impression que tu t'améliores un peu puis que t'essayes plus des choses?
Plutôt que donner genre 100% de ton énergie sur quelque chose en disant putain, si jamais c'est pas bon, j'aurais vraiment donné tout mon corps et mon âme à ça. Bah tu dis bah je vais faire plein de trucs différents, fait que tout va être bien, mais pas si bien que ça parce que tu t'es pas donné à fond. Fait que t'as à chaque fois des excuses pour justifier le fait que dans un domaine ou dans un autre, t'as pas performé. Moi, je sais qu'en cours, notamment, je sais qu'il y a des gens qui donnent vraiment full de leur énergie dans chaque projet. Puis ils arrivent avec des trucs incroyables à la fin. Puis moi, je suis comme genre... Bah, je m'en fous, j'ai fait plein d'autres trucs, justement. Fait que je me donne pas à fond. Fait que ça me fait une excuse de... Justement, je me juge pas.
Mm-hmm.
Parce que j'ai pas mis mon corps et mon âme.
Mais l'idée de se donner à 100%, puis de quand même pas atteindre, mettons, ses attentes personnelles ou...
C'est tellement
dévastateur. C'est tellement épeurant.
C'est ça. Je pense que du coup, c'est une stratégie d'évitement.
Ouais, c'est comme, tu le sais pas vraiment, c'est qu'est-ce que t'aurais pu faire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça, t'évites d'aller à ton plein potentiel pour pas te décevoir rendu dans ton plein potentiel. Tu pars déjà avec une grosse marge de comme, regarde, je sais que ça va pas être au top, correct.
C'est un bon mécanisme de défense quand même, là. Tu sais, mais... Ouais, c'est pas
ouais, c'est ça,
tout le temps le mieux.
Ouais, c'est ça. Parfait, faites ça. Ah, c'est la maison,
pour le bonheur.
La peur de l'échec. La peur de l'échec.
C'est ça, parce que je trouve ça drôle que tu abordes ça, parce que justement, je voulais parler justement d'une chose que moi, justement, j'ai pas été au fond avec un projet, justement, à cause de l'anxiété de performance, j'ai l'impression. Mm-hmm. C'est justement de performer mon EP, genre. T'sais, on dirait c'est l'anxiété de performance qui fait que, genre, j'ai de la misère à vraiment me faire confiance là-dessus puis de me dire, OK, go, genre, je le performe, tu sais, devant des gens, puis je fais des spectacles avec ça, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a d'autres aspects, là, c'est pas juste l'anxiété de performance, mais ça fait partie de ça, genre, un peu. Puis justement, il y avait, tu sais, la chanson Myrtille que je fais, ben, qui est le jingle de notre, de notre podcast. Ben, dans cette chanson-là, justement, je parle de l'anxiété de performance, genre. Puis, justement, je dis que sur une scène, ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le regard des autres, puis que, genre, je me sens pas bien, puis tout ça. Puis, je parle d'un aspect quand même important de l'anxiété de performance que moi, je ressens, c'est la dissociation, genre. Mm. Puis, c'est ça, dans le fond, quand je ressens tellement d'anxiété, ben, je vais dissocier, puis dissocier, c'est comme, dans le fond, c'est que tu te sens juste tellement, genre, tu te sens déconnecté de toi, de, genre, tes pensées, tes émotions. Genre, tu ressens tellement plus... Genre, ton corps se protège, justement. Fait qu'il veut plus que tu ressentes les émotions négatives que tu ressens à ce moment-là. Fait qu'il fait que tu dissocies. Fait que là, tu te sens juste plus présent puis plus là pour de vrai, tu sais. C'est vraiment, genre, épeurant comme sentiment parce que tout est aussi un automatisme. C'est genre, on dirait, je le fais en automatisme, je suis plus là pour vrai, tu sais. Mm-hmm. Puis le temps est bizarre, genre, mettons, ça peut passer full vite ou full lentement quand je me sens dissociée comme ça. Puis aussi, c'est comme l'impression d'observer un peu ma vie, genre, tu sais, je suis pas là pour de vrai, mettons, tant que ça. Fait que ça, c'est... Ouais.
Ça me fait penser, non, mais juste parenthèse, là, c'est comme un peu le principe que ton corps, mettons, quand t'as une trop grande douleur physique, tu la ressens plus, genre. C'est un peu ce principe-là, dans le fond, avec l'anxiété, qui est comme, l'anxiété est trop... c'est quoi, overwhelming, là, en français, là? Elle est trop envahissante,
c'est ça? Mais oui, c'est ça.
C'est comme une réponse physique.
Ouais, puis tu sais, la première fois que j'ai ressenti ça, c'était quand j'ai pris du weed pour la première fois, genre. Puis dès que j'ai... C'était comme secondaire 4, mettons, j'ai pris ça, puis... C'est ça, secondaire... ouais, c'est... c'est ça, 16 ans, ouais. Puis c'est ça, genre, le lendemain, je me suis sentie exactement pareil comme quand j'avais pris du weed. T'sais, pendant le weed, je battrippais, j'étais pas bien. Je me réveille, je me sens encore pareil pendant genre un mois au complet. Oh comme God. Si j'étais complètement genre dissociée pas bien pendant un mois. Puis je suis comme, what the fuck is that, genre? C'est vraiment bizarre. Puis c'est ça. T'sais, j'étais allée genre en voyage. Puis j'étais assise sur ma chaise. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je fais ici, genre? Je comprends pas ma vie en ce moment. Genre, j'ai l'impression de pas être là pour vrai.
C'est la dépersonnalisation, c'est ça? Hein?
Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a plusieurs types. Je peux vous les nommer. Genre, j'avais noté un peu genre certains types justement de dissociation.
Putain, mais elle est bonne, mon Dieu!
Mais c'est ça, fait qu'il y avait la dépersonnalisation, comme tu dis, que ça, c'est plus observer ses propres pensées puis être détaché, genre, complètement. Mais tu sais, c'est ça, c'est un peu pareil que dissocier, mais c'est un type. Fait que c'est ça, je pense que c'est dépersonnalisation que je fais un peu. Sinon, il y a déréalisation, ça, c'est l'environnement est étrange, irréel puis déformé, genre. Fait que là, c'est peut-être plus dans ton regard, genre, de l'environnement.
Mm-hmm.
Tu te sens... pas là, genre, je sais pas, c'est weird. Amnésie dissociative, ben ça, c'est la perte de mémoire, un peu, genre.
Ouais, c'est fait ça,
que, c'est ça, ça, c'est peut-être plus ça que t'as. Y a identité dissociative, ça, c'est plus personnalité multiple, genre. Fait que ceux qui ont plusieurs personnes à l'intérieur de eux. Y a la dissociation traumatique aussi, fait que ça, c'est vraiment en réaction à un trauma. Fait que tu vas pas te rappeler, justement, d'un trauma à cause que... Ça a tellement suscité des émotions fortes que genre, tu vas te bloquer par rapport à ça, puis tu vas plus te souvenir de ça.
C'est ton corps qui te protège.
Ben, c'est ça. Puis moi, pour de vrai, c'est. Genre, je l'avais dit à Cass aussi, parce qu'on en reparlera, mais genre, c'est parce que notre corps, il veut se protéger. Fait que, genre, on dirait que c'est rassurant de se dire, genre, t'es pas en train de faire une psychose, t'es pas en train de, genre.
Devenir fou.
T'es juste en train de. Genre, ton corps se protège, genre. Fait qu'on dirait que c'est assez rassurant de se dire ça quand tu ressens ça, genre. C'est une manière qui m'aidait.
Présenté par Michel. Cassandra Gien.mil.